Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Les 10 leçons pour apprendre à s'aimer lorsqu'on est hypersensible. Alors, le thème de cette troisième vidéo sur le sujet, c'est comment bien prendre soin de son énergie. J'aurais aussi pu appeler cette vidéo « Comment prendre soin de ses besoins ». Mais évidemment, comme il y a différents besoins qui sont importants pour la personne hypersensible, aujourd'hui, j'avais envie de me concentrer vraiment sur cette question de l'énergie, autrement dit l'énergie vitale. Alors, cette vidéo, je vais me baser sur la recherche scientifique actuellement disponible sur le sujet, sur mon expérience de thérapeute et aussi sur mon expérience de médium de transe profonde pour vous livrer un peu mes astuces et comment en fait acquis une certaine compréhension, une certaine connaissance en fait de la santé énergétique et quels sont les meilleurs outils pour prendre soin de son énergie quand on est hypersensible. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir ces outils et pour bien comprendre comment prendre soin de votre énergie. Alors évidemment, pour débuter déjà, c'est important de mettre à jour un peu qu'est-ce qu'on considère comme étant la santé énergétique. Il faut savoir qu'on est bien plus que notre corps physique. Einstein le disait lui-même, le corps physique, finalement, c'est un corps énergétique de basse fréquence, de basse vibration. Et puis, nous sommes finalement la conjonction de plusieurs corps énergétiques. On parle souvent de 7 grands corps énergétiques et potentiellement, il y en aurait évidemment bien plus que cela. À savoir que la santé de chacun de ces corps énergétiques va avoir une influence sur les autres et in fine aussi sur le corps physique. Et finalement, être en bonne santé, un esprit sain dans un corps sain, eh bien c'est ça, ça veut dire prendre soin des divers aspects de mon être pour être aussi dans la meilleure santé physique possible. Vous voyez, c'est comme si les corps énergétiques impactaient le corps physique, comme si le corps physique impacte les corps énergétiques et comme si tous ces corps énergétiques avaient un impact les uns sur les autres. Donc moi, je pars du principe que c'est important d'agir un peu sur tous les plans pour vraiment améliorer son énergie vitale au niveau global. Alors, qu'est-ce qui va impacter cette énergie vitale? Bien évidemment, il y a le corps physique et ses besoins. Donc voilà, c'est important d'avoir une alimentation saine, évidemment, de ne pas se surcharger de drogue, d'alcool ou de substances chimiques qui vont faire baisser la vibration du corps physique. Le plus important, c'est de garder un bon équilibre. Voilà. Alors, je m'explique. Si je me focalise en fait uniquement sur l'aspect alimentaire, eh bien, c'est comme si je faisais un déni en fait de tout le reste. Et si je commence à avoir une anxiété profonde de chaque chose que je vais manger, de chaque chose que je vais ingérer, ça va avoir un impact sur la santé de mon corps mental parce que je vais beaucoup analyser, je vais beaucoup surinterpréter et ça va créer finalement une inquiétude démesurée par rapport à ce que je vais manger. Il y a même pas mal de maladies, de troubles alimentaires en lien avec cela. À savoir que c'est toujours important de le faire finalement dans le calme et puis d'une position de soi qui soit vraiment dans l'amour inconditionnel, dans l'idée de vraiment prendre soin de soi. Voilà, donc ça c'est pour le corps physique. Maintenant pour les autres corps, on va dire que ça se complexifie encore plus. Dans le sens où, on va dire, un des corps principaux qui, je trouve, est actuellement beaucoup mis à contribution, c'est le corps mental. Je trouve que, en particulièrement dans cette période d'instabilité, suite en fait à cette période de Covid, juste après cette période de Covid, il y a eu une guerre en Ukraine. Alors, c'est pas comme si cette guerre était plus importante que les autres, parce que toutes les guerres sont graves et toutes les guerres nous impactent. Mais je pense que la proximité et puis aussi finalement, la surmédiatisation autour de ce conflit et puis toutes les inquiétudes que ça génère au niveau de la sécurité mondiale, en fait, eh bien, forcément, ça génère beaucoup de peur. Les gens sont un peu à l'affût comme ça des informations sur le sujet. Il y a commencé à avoir une inflation aussi. Donc, je pense qu'il y a une insécurité ambiante qui est beaucoup perçue, notamment par les hypersensibles. Et je trouve qu'actuellement, c'est d'autant plus important de prendre particulièrement soin de ce corps mental pour pouvoir rester en bonne santé et pour pouvoir faire baisser le taux d'anxiété. C'est une problématique de contrôle qui est à la base, en fait, des problèmes de santé physique et mentale très souvent. Vraiment, prendre bien soin de son mental, de ce corps énergétique du mental, c'est extrêmement important. Et je trouve que cette période nous pousse en fait à aller au-delà de la connaissance à ce sujet-là et de chercher des ressources qui sont au-delà de nos ressources habituelles, de chercher vraiment comment est-ce que je peux trouver une paix qui soit indépendante des circonstances. Et en cela, c'est une période de grande opportunité, même si ben, c'est très bouleversant et ça nous pousse, j'ai envie de dire, dans nos retranchements en tant qu'hypersensibles. Alors si je veux comprendre un petit peu comment prendre soin de ce corps mental, de mon énergie vitale, c'est important de comprendre quelles sont déjà les caractéristiques de la personne hypersensible. Et pour cela, je vais reprendre un petit peu les travaux d'Aynaron qui présentent quatre traits principaux réunis dans l'acronyme DOSE. Alors le premier, c'est la profondeur dans le traitement de l'information. Dans le traitement de l'information sensorielle évidemment, mais également dans le traitement de l'information cognitive. On est des personnes qui pensons beaucoup, qui ont besoin de comprendre en profondeur les choses, qui ont un énorme aussi besoin de sens, de cohérence, aussi d'harmonie. Donc il y a beaucoup de notre énergie qui est investie là-dedans et ça peut aller vers, souvent vers un peu de déséquilibre en fait. Parce que ça nous pousse à penser que dans notre réflexion, on va trouver vraiment des clés. Et moi je crois que souvent, ça c'est une mauvaise compréhension et de laisser justement parfois notre intuition travailler à la place de notre mental, ça c'est une clé immense pour bien prendre soin de notre énergie. Bien mieux fonctionner sur la base de mon intuition parce que mon mental est souvent submergé, devient envahissant et devient presque toxique par moment, j'ai envie de dire. Savoir que, bon, on a deux mentales en fait. Il y a le mental inférieur qui est justement, disons, on va dire, motivé surtout par la peur, recycler un petit peu les expériences du passé. Et ça, ben, dans une période actuelle de grands changements, le mental piétine, j'ai envie de dire, et puis il se sent complètement impuissant, et ça, ça génère beaucoup d'anxiété. Et une des clés pour sortir de là, c'est se relier à son mental supérieur, qui est l'intuition, et de vraiment laisser en fait cette intuition travailler. Et comment je vais faire ça? Ça va être notamment avec beaucoup de relaxation, de sophrologie, d'hypnose, d'auto-hypnose, de méditation de pleine conscience. Quel que soit l'outil qui vous corresponde le mieux, ça va vous permettre en fait de calmer ce mental qui est envahissant pour avoir accès à d'autres niveaux vibratoires de votre mental, autrement dit le chakra de l'intuition du troisième œil, qui est aussi le chakra de la clairvoyance. Donc ça, c'est pour prendre soin de ce premier trait de la personne hypersensible qui est la profondeur dans le traitement de l'information, qui est en lien justement avec le mental inférieur, supérieur et l'équilibre entre les deux. Et je vous donnerai un peu plus tard dans cette vidéo un outil pour prendre soin de cela également. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Le deuxième trait, en fait, évidemment, ça on le sait tous, c'est le fait d'avoir beaucoup d'empathie et des émotions intenses. Et ça, ça a été prouvé par la science. Ils ont vraiment maintenant réussi à faire plein d'études sur le sujet qui démontrent cette empathie et qui démontrent aussi que nous sommes impactés, pas uniquement par nos émotions, mais par les émotions des personnes autour de nous et en particulier des personnes proches. Donc ça, c'est important de comprendre que je peux être très vite envahie par mes propres émotions. Donc à nouveau, ces outils de pleine conscience, d'auto-hypnose, ça peut me permettre d'améliorer en fait ma capacité d'accueillir mon émotionnel. Et si je reprends l'image, on va dire, de ce cyclone qui serait un petit peu la métaphore de l'émotion qui est très intense, apprendre ces techniques-là, ça permet de se positionner justement au cœur du cyclone, là où les vents sont les moins forts. Et ça permet finalement aussi de réentraîner son cerveau à pouvoir accueillir son émotionnel. Et puis, c'est important de comprendre que justement, lorsque je n'accueille pas cet émotionnel, et même si ça provient de l'empathie, je veux dire, dans les deux cas, les fonctionnements sont les mêmes. C'est-à-dire, si je résiste en certaine mesure, en essayant d'analyser à la place de ressentir, ça c'est une grande erreur que je vois chez beaucoup d'hypersensibles qui viennent consulter chez moi et que moi-même j'ai eu, je veux dire, de grandes difficultés à dépasser et ça reste parfois un enjeu, c'est qu'on cherche à analyser ce qui se passe avant de ressentir. Alors qu'en fait, ça fonctionne beaucoup mieux dans l'autre sens. Je m'explique. Donc, il y a un événement qui se déroule, quelque chose de nouveau, on le sait, chez les hypersensibles, l'amygdale va être plus facilement suractiver. L'amygdale, c'est une glande cérébrale qui est responsable de la réponse émotionnelle aux situations nouvelles. Donc elle est beaucoup plus stimulée que chez les autres profils, qui sont les profils peu sensibles ou moyennement sensibles. Donc chez nous, ça va assez rapidement créer un tsunami. Et puis, de maîtriser en fait ces techniques de pleine conscience, ça a été démontré par la science que ça permettait justement à l'amygdale de se calmer et que ça augmentait même en fait l'activité ici du cortex préfrontal, qui est le siège, on va dire, de la rationalisation. Donc avoir accès à plus de recul, pouvoir avoir des pensées plus clairvoyantes, ça va passer par améliorer ma capacité d'accueillir mes émotions. Et ça, c'est une clé qui est ultra importante et je présenterai encore une fois ces outils à la fin de la vidéo. Aussi un des grands préceptes de la communication non violente, de pouvoir prendre ce recul, de laisser les choses advenir et de ne pas réagir en fait dans l'urgence. Et ça, je ne vais pas vous mentir, ça demande vraiment de l'entraînement. Parce que c'est un petit peu, on va dire, un des modes principaux d'action du mental inférieur pour nous pousser à agir et à nous saboter. C'est de nous faire croire qu'il y a réellement un sentiment d'urgence et qu'il faut tout de suite réagir et que, en fait, on part dans des modes reptiliens de lutte ou de fuite. Et souvent, de prendre ce petit temps, d'apprendre cette discipline en fait, d'accueillir l'émotionnel, ça permet ensuite d'aller dans des modes de pensée beaucoup plus clairvoyants et aussi beaucoup plus inspirés. Et là, je fais appel aussi un petit peu à cette spiritualité, à prendre soin de cette spiritualité. Encore une fois, ce n'est pas mentionné dans les études scientifiques, mais mon expérience m'a démontré en fait que lorsque justement on acquiert plus de maîtrise de ces techniques de méditation de pleine conscience et de relaxation, ça nous permet d'avoir accès en fait. Alors en psychanalyse, on dirait l'inconscient collectif ou l'inconscient universel, accès en fait à des énergies supérieures en fait et aussi à des esprits supérieurs, à des guides qui peuvent vraiment nous aider à mieux interpréter ou plutôt à mieux comprendre en fait ce qui se passe pour ne pas finalement surréagir dans le moment et avoir une action plus clairvoyante qui va porter ses fruits et qui va prendre en compte aussi mes grandes valeurs qui sont importantes pour moi en tant que personne hypersensible et qui sont la bienveillance, le besoin d'harmonie et le besoin de contribuer à un monde meilleur. Souvent, ce que j'observe, c'est que justement, on est envahi par cet émotionnel, on est rattrapé par notre mental qui nous pousse à agir et à réagir dans l'urgence. Puis ensuite, on se culpabilise beaucoup d'avoir surréagi, on se dit « Ah voilà, pourtant je sais, c'est à chaque fois pareil », on s'autoflagelle, et on se dit que la prochaine fois, cette fois on a compris, donc avec l'intellect, avec toutes ces pensées positives, on va y arriver, on va maîtriser ça, etc. Et puis on est dans un mode comme ça, warrior, qui est finalement une forme de violence envers nous-mêmes. Et je vous assure que personnellement, pour être allé très très loin dans ces processus, il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a pas vraiment de soulagement. Et que d'apprendre à prendre ce petit temps pour faire ce qu'on appelle lâcher prise en fait. C'est un peu galvaudé comme terme, mais quelque part c'est ça. Revenir dans le ressenti et laisser toutes ces vagues s'apaiser, de laisser le corps en fait faire son travail d'accueil émotionnel et aussi de gestion de toute cette biochimie, cet orage dans mon cerveau. Après coup, c'est beaucoup plus simple en fait, voilà, de savoir ce qu'il est juste et approprié de faire. Le troisième trait caractéristique de la personne hypersensible, c'est finalement la tendance à être surstimulée. Et ça, c'est ultra important de comprendre que lorsque je suis surstimulée, ça va attaquer mon énergie vitale. Sous stress, je suis beaucoup plus vulnérable et je commence à absorber ce qu'on appellerait les virus collectifs, les pensées collectives, les peurs autour de moi, etc. La meilleure protection de l'énergie vitale, c'est la qualité, la vibration de l'aura. Et pour ça, c'est nécessaire de réguler ce niveau de stimulation. Quand on est hypersensible, si on commence à être surstimulé, mais en dessous d'un certain niveau de stimulation, la vie ne fait plus de sens non plus. L'ennui, si vous voulez, devient mortel. Et donc, l'enjeu, c'est de trouver cet équilibre et de pouvoir nourrir tous les aspects de ma vie. Donc de pouvoir nourrir en fait dans des moments de calme, de relaxation, d'avoir ces moments pour soi, pour faire toute cette hygiène, j'ai envie de dire, au niveau des stimulations et pouvoir faire redescendre en fait le niveau d'excitabilité de mon système nerveux. Rééquilibrer le système nerveux entre le système nerveux sympathique qui est celui qui est sollicité dans les moments d'action, dans les moments aussi où je vais réfléchir, où je suis en interaction avec l'extérieur. Et puis le système nerveux parasympathique, qui est le système nerveux qui va réguler tout ce qui se passe dans la détente. Donc, le corps en fait a besoin de se détendre pour faire fonctionner la digestion, pour faire fonctionner le système immunitaire et puis aussi pour faire un peu le nettoyage au niveau des pensées, au niveau du cerveau en fait, pour pouvoir archiver ce qui a besoin d'être archivé et purifier ce qui a besoin d'être purifié. Donc quand je suis trop stimulée en fait, c'est vite vu, je ne peux plus digérer. Et en médecine ayurvédique, on part du principe que la digestion des aliments, c'est comme la digestion émotionnelle. Si vous voulez, c'est les deux faces de la même pièce en fait. Donc pouvoir avoir ces moments de calme, c'est très important. Et puis pouvoir être suffisamment stimulée, c'est aussi très important pour pouvoir avoir, se sentir vivant, pour pouvoir avoir l'impression que ma vie a un sens et surtout avoir cette impression que je contribue en fait d'une manière positive au monde. Vraiment, c'est tout un enjeu d'apprendre à bien se connaître pour rester justement dans ce bon équilibre. Et là encore, ben, se connecter à son intuition, se connecter à sa spiritualité, savoir avoir autour de soi des personnes qui sont saines et qui vont m'aider aussi à rester dans ce mode positif en fait et constructif, ça va être extrêmement important. Et c'est pour ça que ce sera aussi le sujet d'une prochaine vidéo, comment entretenir des relations saines avec moi et avec les autres pour pouvoir me sentir suffisamment nourrie. Et il y aura aussi une autre vidéo qui sera vraiment dédiée à cet aspect de la nourriture spirituelle. Les personnes se retrouvent surstimulées, envahies d'émotions, parce qu'en fait elles ne savent pas dire non, elles ne savent pas en fait prendre soin d'elles-mêmes, elles n'osent pas décevoir, et parfois même elles n'ont même pas conscience en fait que leurs limites sont dépassées. À savoir que quand je suis envahie par mon mental, en fait je ne ressens plus vraiment mon corps. Et c'est comme ça en fait que je ne perçois pas les signes de fatigue en fait. Il faut savoir qu'avant de tomber par exemple dans l'irritabilité ou dans la fatigue chronique, en général il y a des signes précurseurs qui démontrent que mon système nerveux est surstimulé. Mais dans ces moments-là, ben, soit en fait je suis partie en mode automatique parce que j'étais dans mon intellect et pas dans mon corps, donc je n'ai pas senti ces signes-là, ou alors je les ai sentis mais je les ai négligés parce que j'ai mis les besoins des autres avant les miens. Et ça, c'est souvent des stratégies automatiques qui sont apprises dans l'enfance et dont il est important de pouvoir se libérer. Voilà, si je veux pouvoir apprendre à prendre soin de ce trait qui est la tendance à être facilement surstimulé. Le dernier trait qui caractérise la personne hypersensible, c'est attention en fait aux détails. Voilà. Donc ça contribue aussi en fait au fait d'être surstimulé sur plusieurs plans et ça contribue notamment à surcharger, que ce soit le niveau de stimulation sensorielle, mais aussi les pensées et même les émotions. Je m'explique. Donc je vais percevoir des petits changements dans l'intonation de la voix, dans la gestuelle, dans l'énergie en fait. Et ça, ben, en fait, avec ce besoin de comprendre, ben, je vais rapidement me demander, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait. Et puis si, pour peu que j'ai une faible estime de moi-même, je vais commencer à me dire forcément que c'est de ma faute. Donc je vais observer par exemple, ben, j'arrive au bureau le matin, il y a une personne qui est tendue, qui ne me dit pas bonjour comme d'habitude, et moi je vais commencer à réfléchir, je vais me dire, ben voilà, j'ai dû faire un truc qu'il ne fallait pas, j'ai dû faire un truc quand il ne fallait pas, j'ai dû dire ça au mauvais moment, de la mauvaise façon, et puis maintenant, et que je vais commencer à surinterpréter. Et voilà, donc ça, je veux dire, c'est important de réaliser, j'ai envie de dire, que vous avez cette attention du détail, que ce n'est pas le cas de la plupart des gens, et que, en fait, le piège, ce n'est pas tellement de sentir tout ça, voilà. C'est le fait de ne pas savoir se préserver de ça, c'est le fait de ne pas sentir quand est-ce que c'est trop, de ne pas s'autoriser à prendre ces moments de relaxation. Et puis, de chercher à surinterpréter et de m'imaginer que tout est en mon pouvoir et tout est sous mon contrôle. Chose promise, chose due, quels sont les outils que je privilégie personnellement pour bien prendre soin de mon énergie et de tous ces aspects de la personne hypersensible? Ça va commencer par déjà justement acquérir des outils de pleine conscience. Alors, qu'est-ce que c'est que cette pleine conscience? Ça veut dire apprendre finalement ou maîtriser la capacité de mon cerveau à porter son attention plus sur mon ressenti que sur mes pensées. Il faut savoir que le cerveau ne peut pas faire ces deux choses à la fois, soit il pense, soit il ressent. Et c'est un entraînement, en particulier si j'ai de l'anxiété, ça ne va pas venir d'une seconde à l'autre. C'est comme un réentraînement cognitif, si vous voulez, reconstruire des connexions neuronales afin que vous soyez capable, avec votre cerveau, de porter votre attention sur le ressenti plutôt que sur la pensée. Et pour ça, en général, je donne divers outils pour débuter. Je vous conseille en fait d'avoir une pratique quotidienne. Pourquoi une pratique quotidienne? Parce que justement, ça permet d'inscrire les choses dans une routine. C'est un peu comme si en fait vous considériez que prendre soin de votre système nerveux, c'était tout aussi important que de vous laver les dents. Et je vous assure que c'est le cas si vous voulez une vie épanouie. Alors, évidemment, si maintenant je vais de nouveau dans l'excès et que je vais en fait être dans la contrainte à me dire voilà, il faut absolument que je médite 20 minutes par jour, voire une heure par jour en position du lotus, que je dois absolument arrêter mes pensées totalement, vous allez tomber dans quelque chose de très anxiogène. Donc moi, je ne vous suggère pas ça, en tout cas pas ça pour débuter. Personnellement, je trouve qu'un des meilleurs outils qui fonctionne chez la plupart des personnes que j'accompagne également, c'est celui qu'on appelle la respiration alternée. Alors, vous trouverez plein de tutoriels sur YouTube. C'est à la base un exercice de yoga ou de pranayama. Et justement, ces exercices de pranayama sont ceux qui prennent en compte l'énergie vitale et comment, en fait, réguler cette énergie vitale. C'est vraiment un exercice qui permet, en fait, de rétablir l'équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que vous pouvez le faire autant le matin pour clarifier votre esprit, pour démarrer votre journée dans les meilleures conditions, que le soir pour trouver le sommeil. Et si ça peut vous arriver de vous réveiller la nuit, parce que par exemple vous avez de l'anxiété dans les périodes de stress, c'est aussi un exercice qui permet de rapidement retrouver le sommeil. Alors ça se passe comme ça, on fait des respirations abdominales. Donc c'est quoi les respirations abdominales? Ça veut dire qu'à l'inspiration, et c'est vraiment l'inspiration qui est active, vous allez éloigner le nombril de la colonne vertébrale et on va respirer par le nez. On va boucher la narine droite avec le pouce droit. On va poser l'index et le majeur au niveau du troisième œil. Et on va commencer par faire une respiration, donc en gonflant le ventre et en respirant par la narine gauche. Ensuite, je vais faire une expiration la plus longue possible, par la narine gauche toujours, jusqu'à ce que j'ai les poumons entièrement vides. Je fais une pause de 3 secondes, poumons vides. Et c'est à ce moment-là que mon mental va vraiment pouvoir se décharger. Et pendant cette pause, j'en profite en fait pour intervertir, c'est-à-dire pour boucher la narine gauche avec mon annulaire et ouvrir la narine droite. Et je recommence à faire une inspire et une expire, toujours en gonflant le ventre. Et ainsi de suite, à chaque fois, pendant la pause des 3 secondes, vous intervertissez et vous faites à nouveau une inspire et une expire avec la narine gauche, une inspire et une expire avec la narine droite. Je propose de commencer tranquille en fait par un exercice de 2-3 minutes par jour, par exemple après le brossage des dents, après la douche, c'est là où on est dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire cet exercice. Enfin, si vous avez des troubles du sommeil, je vous suggère de déplacer l'exercice le soir parce que c'est là que vous en avez le plus besoin. Si vous êtes un hypersensible, un peu perfectionniste, vous allez vous dire, ben voilà, Anita, elle a dit de faire ça 2-3 minutes par jour, mais moi, je vais faire ça 5 minutes par jour, comme ça, j'aurai beaucoup plus vite fait. Et puis, je vais faire ça pas que le matin, mais aussi le soir. Et puis, à un moment donné, matin, mais... Et si vous faites ça, si vous partez dans cet écueil-là, vous allez le faire 3 jours et ensuite, vous allez abandonner. Parce que c'est important de garder une bonne écologie, et c'est-à-dire de vous dire, de vous fixer un objectif qui soit atteignable, en fait, qui ne va pas tout de suite bouleverser toute votre routine. Donc, c'est mieux, encore une fois, de vous fixer un engagement. C'est ça qui est le plus difficile, ça va être de tenir sur du long terme. Donc de vous fixer cet engagement, de tenter cet exercice sur 21 jours, c'est souvent ce qui est préconisé pour changer une habitude, 3 semaines, 21 jours, vous le faites soit le matin, soit le soir en fonction de la qualité de votre sommeil et vous le faites 2 à 3 minutes. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de choisir une musique qui dure 2 à 3 minutes. Ça évite de mettre un timer, de vérifier l'heure. Et puis la musique, en particulier si vous choisissez une musique qui vous relaxe, moi j'aime bien écouter par exemple Michel Pépé, des auteurs comme ça, ça va vous aider aussi à être vraiment bien dans l'exercice et ça va vous couper des stimulations extérieures. Personnellement, je trouve que c'est comme ça que j'arrive le mieux à faire cet exercice. Donc vraiment, l'exercice de la respiration alternée, je le trouve extrêmement pertinent pour appréhender cette pleine conscience, parce qu'on est obligé d'être concentré, on peut vraiment aussi s'exercer à porter son attention sur les sensations du corps. Et au début, c'est pas si simple, donc ça permet aussi d'y aller tranquille. C'est un peu comme si vous voulez, on s'entraîne pour un marathon, on va pas tout de suite faire 20 km de course, on commence par faire 2 minutes de course, 2 minutes de marche, etc. Et puis petit à petit, on va acquérir des compétences, se sentir de mieux en mieux, et ça permet de pas se dégoûter. Voilà, donc voyez vraiment cet entraînement du mental comme si vous vous prépariez pour un marathon. Un deuxième exercice qui est extrêmement pertinent, je trouve, et qui peut fonctionner quand je suis envahie, par exemple, c'est un exercice qui va permettre de tout de suite se reconnecter aux cinq sens, que j'appelle le 5-4-3-2-1. Alors, c'est quoi cet exercice du 5-4-3-2-1? Ça va commencer par citer cinq choses que vous voyez. Voilà. Donc, par exemple, si je vais faire moi l'exercice, moi, je vais regarder autour de moi, je vais voir en premier ce qui me fait beaucoup de bien, mon chien en train de dormir que j'ai invité à venir avec moi ce matin pour travailler. Je vais voir l'orchidée que j'ai placée là, que j'ai achetée en symbole de l'hypersensibilité, parce que justement, les orchidées sont sensibles à leur environnement. Je vais voir une autre plante où je vois que voilà, elle aura probablement besoin d'un petit peu d'eau. Je vais voir le tableau de l'arbre de vie que j'ai mis dans mon cabinet, qui me fait aussi beaucoup de bien quand je regarde. Et je vais voir l'image en fait du Bouddha que j'ai mise là également et qui me fait toujours aussi du bien quand je la regarde. C'est des symboles comme ça qui m'aident à me connecter à des énergies de paix. Donc cinq choses que je vais voir. Ensuite, cinq choses que je vais entendre. Par exemple, voilà, j'entends maintenant le son de ma voix. J'entends, si je prête vraiment l'attention, la respiration de mon chien qui ronfle un tout petit peu. Je vais entendre certains bruits environnement, j'entends quelques oiseaux qui chantent. J'entends maintenant ma respiration. Et puis j'entends très légèrement à l'extérieur le petit bruit probablement d'un tracteur. Il faut savoir que j'habite une zone rurale où il y a souvent des véhicules agricoles qui circulent. Donc, cinq choses que je vois, cinq choses que j'entends et puis cinq choses que je ressens ou que je sens. Donc, si je prête l'attention, je ressens l'huile essentielle que j'ai mise ce matin, en fait, pour embaumer l'air et pour purifier, en fait, l'atmosphère du cabinet. Je ressens mes pieds sur le sol. Je ressens mes mains, en fait, que j'ai posées comme ceci, assez spontanément. Ça, c'est aussi intéressant d'observer un peu les gestes que vous faites spontanément pour trouver la sécurité intérieure. C'est des gestes que vous pouvez facilement reproduire. Je ressens l'air dans mes poumons. Et je ressens l'élastique de mes cheveux que j'ai remis récemment parce que mes cheveux ont à nouveau un petit peu poussé, donc j'ai pas encore bien l'habitude. Et puis je continue avec cet exercice, mais cette fois-ci, au lieu de citer 5 choses, je recommence en citant 4 choses. Donc 4 choses que je vois, 4 choses que j'entends, et 4 choses que je sens ou que je ressens. Et ensuite 3 choses, et ensuite 2 choses, et ensuite 1 chose. Dernier exercice que j'aime bien aussi proposer, mais ça c'est un peu étrange, mais vous allez voir que ça fonctionne très bien pour la plupart des gens, c'est l'exercice qui consiste à compter ses pensées. Donc ce que je vous suggère de faire, c'est de fermer les yeux, de prendre déjà pour commencer toujours 3 grandes et profondes respirations, et pendant 60 secondes, je vais compter mes pensées. Alors, les pensées, ça va être, il est bizarre cet exercice qu'Anita propose, je me demande bien à quoi ça peut servir. Oh là là, est-ce que ça c'était une pensée ou c'est pas une pensée? Ou j'ai peur de ne pas arriver à faire l'exercice. Et à chaque fois, vous les comptez, vous allez voir que petit à petit, tout à coup, il y a un petit moment de vide. C'est un peu comme un silence entre les bruits. Et ça, c'est magique. Tous ces petits moments où il y a eu moins de pensées, votre cerveau, en fait, est entré dans un état de conscience modifié. C'est-à-dire, il a réussi à baisser ses fréquences cérébrales. Et dans ces moments-là, il y a des guérisons, il y a des choses magiques qui se passent. Et je peux entrer en connexion avec, en fait, d'autres sphères de mon être. Et puis, ça rééquilibre aussi les corps énergétiques. Donc ça, c'est extrêmement puissant comme exercice. Voilà. Alors, un grand merci pour votre attention. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, à me dire si ça a été utile pour vous et qu'est-ce que vous auriez envie de voir dans mes prochaines vidéos. Et puis, ça permet aussi, si vous mettez un like, si vous vous abonnez à ma chaîne, de faire savoir en fait à d'autres personnes hypersensibles que mes vidéos ont été utiles. Un grand merci à vous Et je vous souhaite encore une très très belle fin de journée et je vous envoie tout mon amour. Au revoir.